Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour à tous, bien aujourd'hui nous voyageons à vélo avec nos deux invités. Je commence par Denis Lannoy qui nous a déjà présenté dans une émission Air de Rien la saison 19 des Maisons Théâtre, de la Maison Théâtre des Littératures à Voix Haute, avec comme je dirais nouveauté ou particularité des rencontres cyclo-littéraires. Et pour ces rencontres cyclo-littéraires, vous avez fait appel à Denis, je ne vous ai même pas dit bonjour.
Eh bien bonjour.
Vous avez fait appel à Jean-Emmanuel Ducoing. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi Jean-Emmanuel Ducoing ?
Ah, parce que c'est un écrivain qui sait utiliser les mots pour parler du cyclisme et particulièrement du Tour de France, puisqu'il est chroniqueur au journal L'Humanité. Et je dois dire que c'est comme ça que je l'ai découvert, moi. C'est pas par les chroniques de L'Humanité. Et puis après, je me suis intéressé à ses livres. Et voilà, c'est pour la raison pour laquelle c'est l'invité.
Alors, du début février, en parallèle de l'Étoile de Bessèges, vous avez tout de suite accepté parce que vous aimez parler du cyclisme d'une façon, je dirais, non sportive, d'une façon littéraire.
C'est une passion, le cyclisme, qui court depuis mes 4-5 ans, vous voyez. Donc, c'était bien avant de parler de littérature ou de journalisme. Évidemment que j'ai accepté tout de suite, bien sûr.
Alors, vous avez été présent dans plusieurs collèges, donc vous aimez, c'est un petit peu la marque de fabrique de la Maison des Littératures à Voix Haute. Vous aimez partager. Et le cyclisme, vous voulez peut-être le sortir de cette idée que c'est un sport populaire, ça tout le monde le revendique et c'est évident. Mais vous voulez aussi le sortir peut-être de cette idée que bon, les cyclistes, c'est des gros mollets qui pédalent et pas grand-chose dans la tête.
C'est une bonne idée, oui. Vous savez, la pratique cycliste, c'est le sport le plus difficile au monde. Mmh. D'ailleurs, déjà, ça commence comme ça. Donc forcément, puisque c'est le sport le plus difficile au monde, ça ne pouvait pas n'être qu'un sport. Voilà. Mmh. Et depuis les origines du cyclisme, fin du 19e siècle, et surtout depuis la naissance du Tour de France, 1903, c'est un sport qui, par sa pratique, par ce qu'elle charrie, par les personnages qui l'ont traversé au fil de plus d'un siècle, une histoire très très longue, a toujours habité, j'allais dire les intellectuels, mais pas vraiment que les intellectuels en vérité, les poètes, les écrivains, les journalistes de très grands talents, il y en a eu énormément d'aïeux très très chers. Et donc, le cyclisme est né par les mots. 1903, Henri Desgranges, l'équipe, l'auto, pardon, le journal L'Auto avant de devenir l'équipe. Et le cyclisme est né par les mots. Donc il y a quelque chose de totalement noué dans l'histoire, à la fois imaginaire, onirique et légendaire du cyclisme, surtout le Tour de France. Autour de la question littéraire, presque.
Oui, mais c'est un sport populaire et on voit chaque année, ça draine des millions de spectateurs. Alors, physique, hein, c'est-à-dire sur les routes, mais aussi à la télévision, à la radio. Hein, puisque,
bien sûr.
Et c'est une sorte de manifestation collective, c'est-à-dire on a l'impression d'être sur le vélo en même temps que le cycliste.
Alors, ce n'est pas devenu populaire pour rien. On pense au cyclisme en général, bien évidemment. Mais le cyclisme ne devient vraiment populaire que dans les années 30, à partir d'une date très particulière, et qui va toucher directement l'histoire du Tour de France.
Le Front Populaire,
oui, les congés payés, dans le mille, vous avez tout compris.
Les tandems.
Mais bien sûr, bien sûr. Le Tour de France étant placé au mois de juillet, les congés payés arrivent, et là c'est l'explosion populaire. Avant, c'est pas forcément un sport populaire au sens du public. En revanche...
Ouais.
Il est ultra populaire au sens de ceux qui le pratiquent, le cyclisme.
Les ouvriers,
les paysans sont des gens qui viennent de tout en bas.
C'est la liberté et c'est aussi le moyen de partir, de voyager. Moi, j'ai en tête ces photos en noir et blanc avec les petites poussettes derrière les vélos, avec 3-4 gosses. Enfin bon, cette joie.
Cette ferveur.
Et puis, je pense, moi, le cyclisme, en écoutant Front Populaire, moi, je pense aussi les cyclistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Je pense aussi aux résistants, aux passeurs de messages. Il y a toute une imagerie comme ça.
La liberté de locomotion. Avant l'automobile, on peut le dire, même carrément.
C'est peu
et
cher.
Et puis aussi, vous n'avez pas mentionné quelque chose qui me tient à cœur, l'usine.
Et oui, c'est
les ouvriers.
Les usines Renault, on voit, ils arrivent en vélo.
Évidemment, c'est le moyen de locomotion par excellence.
Ouais. Et ça a beaucoup évolué, bien évidemment. Alors, ça a beaucoup évolué dans le sport. Ça a beaucoup évolué aussi.
Le sport, il a franchement évolué.
Oui, vous nous parlerez de ce changement des années 80-90. Mais je pense aussi, on voit dans les magasins de sport maintenant, il y a presque une mode en fait, du cycliste, super habillé, avec plein de gadgets, de machins comme ça.
On est dans une révolution urbanistique et de la mobilité, donc il y a un retour au vélo, bien sûr. Oui.
C'est vrai que les pistes cyclables, enfin, quand on va à Amsterdam, on voit que tout le monde est à vélo et que c'est évident. Donc
c'est vrai.
Il y a encore du
chemin. Alors, je vais vous décevoir.
Vous n'êtes pas cycliste.
Parce que moi, je ne pratique pas le cyclisme de ville.
Ouais. C'est dangereux.
Non, c'est pas la raison essentielle.
C'est polluant.
C'est que moi, je déteste l'expression, mais je vais quand même l'utiliser puisqu'on est entre nous. Je suis un puriste du cyclisme et du vélo de route. Et bien sûr, du vélo de route. Donc, habituellement, je ne pratique quasiment que le vélo de route.
Que le vélo de route.
Voilà.
Ça
par
demande...
passion aussi.
Oui,
par
ça
passion.
Demande d'autres capacités physiques, je suppose.
Pas forcément.
Pas forcément.
Non, j'irai pas jusque-là quand même. Non. Ça m'arrive de faire même du vélo électrique, vous voyez.
Ouais.
Je vous fais un aveu. Il faut quand même pédaler. Non, j'irai pas jusque-là. Je dis simplement que, étant à la fois passionné par la trajectoire de cette histoire plus que centenaire, encore une fois, et surtout passionné aussi, bien sûr, vous l'avez compris, par la compétition sportive elle-même, qui s'enracine sur le temps très très long. C'est vrai que mes habitudes, mon regard, ma passion,
c'est le vélo
presque
de route.
Le côté charnel se porte vers le vélo de route.
Vous avez le
temps. J'en suis désolé.
Non, pas du tout. Mais vous avez le temps de voir les paysages ou c'est pourquoi ce goût de la route?
Alors, comme cycliste ou comme suiveur? C'est pas
d'abord
pareil.
D'abord comme cycliste.
Ah, comme cycliste. Ah bah encore une fois, c'est moi les souvenirs de gamin. J'ai fait du cyclisme jusqu'en junior. J'étais pas très doué, mais passionné. Encore une fois, la mobilité. Le vent dans les oreilles et les cheveux, l'esprit qui divague. C'est un peu comme Jean-Jacques Rousseau marchant, ou Jean Jaurès marchant, des heures et des heures pour réfléchir. Je n'ai jamais aussi bien réfléchi que sur un vélo. Ça paraît paradoxal parce qu'il faut quand même être attentif, etc. Je n'ai jamais autant aimé mes deux fils qu'avec eux, tous les trois, sur un vélo.
Oui, mais c'est cette notion de partage aussi, d'être ensemble,
absolument,
de voir les mêmes choses. Donc là, en tant que cycliste, Denis, vous êtes cycliste? Pas beaucoup.
Non, non. Je
mais
pratique.
Vous réfléchissez tout de même.
Oui, ça, c'est vrai. Non, je pratique le vélo
en ville.
En ville, oui.
Et
pas trop sur la route, mais par contre, je suis. Le tour, c'est une expérience inouïe, quoi. C'est quelque chose que j'aime regarder, que j'aime lire les mots qui sont liés au Tour de France. J'aime rêver, voilà, avec et puis quand on est enfant, ado, on est fasciné par les grandes figures.
Oui, moi je me souviens, ça m'intéressait pas tellement, mais bon, j'avais deux frères, donc mon père, bien sûr, on regardait le Tour de France à la télévision, et les noms comme Anquetil, Poulidor, que vous avez connus.
Absolument.
C'est vrai qu'on
je les ai
regardait.
Pas vu courir hein, quand même. Hein,
oui,
ne me prêtez pas un âge canonique.
Et puis moi, je sais que j'étais très marquée par les descentes. Je disais, mais c'est dangereux. J'imaginais, vous parliez du vent, là.
C'est
ce
dangereux.
Danger dans les descentes. Et puis les chutes spectaculaires. Moi, je me souviens d'images de chutes personnelles, individuelles. Je me souviens aussi de pelotons complètement... Et c'est vrai.
Alors,
que l'arrivée, c'est quelque chose
sur toutes les courses, il y a beaucoup de chutes. D'ailleurs, je signale au passage, pour faire un peu plus contemporain dans notre discussion, qu'il y a de plus en plus de chutes dues au matériel, à la vitesse, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la technique. Pas plus tard que sur la première étape de l'étoile de Bessèges, pas celle qui a été annulée, donc évidemment, donc la deuxième vraie étape de l'étoile de Bessèges, on n'a pas compté le nombre de chutes, mais il y en a eu 5-6 assez importante,
assez grave,
y compris groupée. Donc oui, c'est quelque chose d'impressionnant. Et je comprends que le téléspectateur, devant son petit écran, puisse prendre peur, singulièrement dans les grandes descentes des grands cols de l'Isoard, du Galibier, du Tourmalet, du Mont Ventoux, où il y a beaucoup de vent aussi.
Mais ça marque, hein, ça marque.
Ah, mais ça marque vraiment.
Les esprits.
Alors quand on est sur un vélo, c'est très impressionnant, même quand on n'est pas professionnel, mais alors quand on est dans une voiture suiveuse du Tour de France, dans des descentes de col avec des coureurs devant ou derrière, c'est quelque chose d'impressionnant aussi. Ça ressemble plus à un rallye automobile qu'autre chose, croyez-moi.
Oui, alors vous m'avez répondu d'abord comme cycliste. Là, on évoque que vous êtes suiveur. Vous suivez les Tours de France depuis 1989. Donc cet été, ça va être le 34e.
35e.
35e. Ouais. Ah bah oui, je ne sais pas compter. Donc le 35e. Toujours avec autant de plaisir ou avec moins de plaisir parce que vous allez nous parler de ce changement des années 80-90, du professionnalisme financier, ça vous choque ce que je dis ?
Non, pas du tout. C'est parfaitement vu. Je peux même aller beaucoup plus loin dans la critique du cyclisme très, très, très moderne. Alors, en fait, j'ai commencé... Je voulais suivre le Tour de France. C'était l'un de mes rêves de très jeune journaliste, etc. J'ai commencé journaliste de sport à suivre le Tour de France. Et depuis presque deux décennies, je ne me sens plus vraiment journaliste de sport sur le Tour de France. Je vous explique. Je suis plus devenu un chroniqueur, un chroniqueur du temps long précisément.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que je ne suis plus là seulement pour faire remonter le réel en instantané, dans la mesure où ça ne sert quasiment strictement à rien, puisque désormais, comme vous le savez, France Télévisions retransmet les étapes de A à Z.
Oui,
hein, voilà,
ça fidélise des spectateurs.
Voilà, voilà, du début au coup de sifflet final, si je puis dire,
et
jusqu'à
l'arrivée.
Et avec
des petites interruptions voilà. de paysages.
Ce qui n'existait pas, cela va sans dire, il y a moins de 20 ans encore, puisqu'on voyait que les deux, trois dernières heures... Plus encore dans les années 80 et 70, où on voyait parfois même la dernière heure seulement de course. Plus encore dans les années 60, 50, où là, eh bien oui, nous sommes dans une radio. Il fallait écouter la radio.
Bien
et
sûr.
Le célèbre Georges Briquet, par exemple, qui a donné ses lettres de gloire à la radio sportive. Et plus encore avant, bien évidemment, il n'y avait ni radio ni télévision. Et on en revient au point de départ de notre discussion, où le cyclisme, les héros, les grandes figures, les grands drames, les grandes épopées, les grandes victoires ne se traduisaient que par les mots. Mmh. Et donc, par les mots...
On en vient à la chronique.
On en vient à la chronique. Et en
qui fait quelle durée, votre chronique ?
Bah, elle fait une pleine page dans mon journal,
oui,
L'Humanité.
L'idée radio.
Mais en vérité, l'idée de la chronique, pourquoi je dis ça ? C'est que, sans vouloir faire des grands mots, le chroniqueur se prend un peu pour Saint-Simon. C'est-à-dire, en gros, dire le vrai du temps et le légitimer par le verbe. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, je comprends bien.
En fait, c'est le Tour de France, c'est trois semaines. C'est l'épreuve sportive la plus dure au monde. Tous les jours, il se passe des choses formidables, humaines, de chair, de sang, de sport. Et donc, c'est comme un feuilleton. Un feuilleton à l'ancienne, c'est Dumas, c'est tout ce qu'on veut, ça fait appel à la grande littérature, y compris au début du XXe siècle. Donc en fait, on prend le lecteur, l'idée c'est ça en fait.
Oui,
c'est de prendre
j'aime bien l'idée du feuilleton.
Voilà. On prend le lecteur par la main, mais de manière très très libre, c'est-à-dire qu'on est, encore une fois, on n'est pas obligé de raconter toute la course.
Oui, on prend un point. J'allais vous demander justement, est-ce que vous avez un point de départ ? Est-ce que vous avez un thème précis ? Est-ce que selon la journée... Vous dites, tiens, ça, c'est intéressant. Vous avez vu, justement, un échange entre des coureurs ou...
Ça dépend des jours, ça dépend des étapes. Ça dépend
de votre humeur.
Ça dépend aussi de la topographie des lieux.
Ouais.
Et ça dépend aussi, parfois, du patrimoine historique où le Tour de France peut passer.
Eh oui.
Voilà. S'il passe au Tourmalet, moi, je vais penser à Octave Lapiz, le premier à avoir franchi le col, forcément, en 1910, qui est mort après à la Première Guerre mondiale. Si on passe dans l'Izoard, je vais penser à Fausto Coppi, aux grandes légendes de l'après-guerre. Si on passe au Ventoux, je vais forcément penser à Bernard Thévenet, qui chute à cause du vent, précisément, vers Malocène. Enfin, voilà, vous voyez. Si on passe à Alès, je dis Alès aujourd'hui parce que ce matin, j'ai eu la chance de visiter les mines autour d'Alès, voilà, que je n'avais jamais fait vraiment dans ma vie, contrairement aux mines du Nord. Par exemple, à la porte du Hainaut, à Arambert, dans le Nord, là où passe Paris-Roubaix tous les ans, la fameuse
Paris-Roubaix.
Classique, ben voilà, quand on se retrouve là dans la salle de presse, dans la salle des pendus, forcément, l'article du journaliste de l'Humanité... Il ne peut pas passer à côté de ça et ne se contenter que du sport. Encore une fois, le cyclisme, ce n'est pas que du sport.
Est-ce que vous les compilez, ces chroniques, à chaque Tour de France ? C'est-à-dire que, est-ce que vous les relisez après et vous vous dites « Ah, c'est un roman, c'est un feuilleton ».
Non, je ne fais pas ça. En revanche, c'est vrai que j'ai déjà eu des sollicitations d'éditeurs pour faire une sorte de best-of.
Oui, parce que dans
quel
les exemples
mot.
Que vous donnez, vous parlez que de paysages naturels, le Tourmalet, non, Alès, la mine témoin, etc. Donc, il y a votre personnalité qui se reflète dans vos choix, bien évidemment. Et votre personnalité, on va un petit peu entrer dedans dans la musique, puisque vous avez choisi non pas une chanson, non pas la bicyclette, vous avez choisi une gynopédie de Satie. Ça vous permet de vous écouter de la musique en étant suiveur ? Non, vous n'avez pas le temps.
Non, on n'a pas le temps en étant suiveur. En revanche, si, je viens de mentir.
Ah, c'est pas
je
bien.
Je ne peux pas écrire sans musique dans les oreilles.
Et donc, Eric Satie.
Souvent du Satie, pas que. Bach aussi, La Passion selon saint Matthieu, mais beaucoup de Satie, ouais.
Sur Radio Alliance Plus, écoutez, on n'a pas de difficulté à faire parler Jean-Emmanuel Ducoing. Si, j'ose dire qu'il n'ai pas lu vos chroniques, si vous écrivez aussi bien que vous parlez, ça doit être vraiment un feuilleton. Denis, vous en avez déjà des exemples et vous avez le livre, par exemple, que Jean-Emmanuel Ducoing a écrit sur Laurent Fignon. Là, on est plus près de maintenant, hein, parce qu'Anquetil, Poulidor, tout ça, c'est, c'est tout de même le passé. Et Laurent Fignon, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de particulier.
Ah oui, il fait partie de... Encore une fois, je n'aime pas l'expression, mais je l'utilise, parce que dans le milieu, ça dit quelque chose. Il fait partie de la race des seigneurs, ni plus ni moins. Il a gagné 2 Tours de France, 83-84.
On le traitait un peu d'intello, je me souviens, avec sa petite cheval.
C'était essentiellement du temps où il était coureur. Je l'ai connu coureur. C'était essentiellement à cause de ses lunettes rondes.
Ouais.
Mais en vérité, pas que.
Okay.
C'était un vrai lecteur et il aimait le goût des mots. Et d'ailleurs, avant que Denis peut-être lise un extrait du livre, donc c'est son autobiographie, on s'est rencontrés aussi pour ça avec Laurent. On était devenus amis à la fin de sa carrière. Et puis on s'est retrouvés quelques années après. Il était organisateur de Paris-Nice, donc je l'ai vu très souvent. Et c'était quelqu'un qui était un être vraiment très, très digne, y compris dans le cyclisme. Il avait beaucoup de sensibilité, il avait peu d'amis dans son existence.
Il avait du mal à s'intégrer un peu dans le milieu.
Oui, probablement, bien sûr. Oui. Il vient du petit pavillonnaire. D'autres venaient plutôt des campagnes, des milieux ouvriers.
Ça me fait penser à l'extrait que Denis a mis dans son... Comment on appelle ça le programme où il a mis un petit extrait de vous, il met « La course contre l'oubli, contre le temps, course contre soi-même, une vie, le vélo dit tout du caractère des hommes. » Point d'interrogation. « Le vélo a-t-il tout dit sur moi ?»
Voilà, ça c'est Laurent Fignon qui parle. Enfin, je lui ai prêté mes mots, mais c'est Laurent Fignon qui parle absolument, oui. Oui, le cyclisme, pas que le cyclisme professionnel, mais enfin quand même, dans la course professionnelle, il y a une telle furie, un tel combat. C'est un grand sport collectif aussi, il ne faut pas l'oublier, on ne gagne jamais seul. Il y a une telle souffrance que ça renvoie à la fois métaphoriquement à l'ouvrier sur sa machine, mais par la métaphore de l'ouvrier sur sa machine, ça se renvoie à soi-même aussi dans la souffrance. Et dans la souffrance, on est nu. On ne peut pas tricher sur un vélo, en vérité. Il y a peu de sport en football, on peut tricher. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes.
Ouais.
Dans le cyclisme, on ne peut pas tricher. On est au pied du mur.
Je me souviens d'un mot que j'avais vu à la télévision de Jacques Anquetil quand il avait arrêté sa carrière. On lui disait « Vous allez faire du vélo le dimanche ?»« Ah, pas du tout hein, j'en ai assez bavé, je ne remonterai plus jamais sur un vélo. » Ça m'avait vraiment marqué.
Jacques a beaucoup souffert sur un vélo. Ouais. Bon, il était dû. Alors lui, pour le coup, c'était un cycliste prodigieux. Le plus beau de toute l'histoire sur un vélo. Il était posé sur une machine comme ce n'était pas permis. Quoi. C'était Nureyev sur un vélo.
C'est joli quand même.
Et accessoirement, c'était une sorte d'aristocrate, d'intellectuel, de fermier normand, à l'intelligence inouïe, aux amitiés fidèles, à la vie compliquée hein, quand même.
Oui,
mais surtout, il était prodigieux d'intelligence.
Ouais.
Hélas, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois dans ma vie, en 1987.
Là, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'il y a des photos magnifiques des cyclistes. Hein. Le cycliste au repos, le cycliste à l'effort, le cycliste épuisé. Et c'est en ça que c'est littéraire, parce que quand on regarde une photo, on se fait son roman. Alors, Denis, on vous écoute. Vous avez choisi un petit passage.
Oui, un tout petit passage, parce que c'est important de laisser la parole s'envoler, là, pour le coup. s'échapper. La parole s'échapper. Je vais lire la dernière phrase de J'en gagne 5 ou 6 et j'arrête. C'est un des chapitres du livre, l'autobiographie écrite par Jean-Emmanuel de Laurent Fignon, Nous étions jeunes et insouciants. Et je lirai juste le premier paragraphe de ce même chapitre, mais après. Et juste pour situer historiquement, c'est après la première victoire en 83 dans le Tour de France, la première victoire un peu inattendu de Laurent Fignon. Mmh. Il a 21 ans et il gagne le Tour de France. C'est pas un vol, hein. Attention.
Non. Mais c'est quand même inattendu. Bernard Hinault n'était pas là.
Voilà. Bernard Hinault était souffrant. Pas là. Et c'est un jeune remplaçant dans la même équipe.
Il y a des hasards de la ville. Hein.
Qui va prendre la succession. La dernière ligne de ce chapitre, c'est « Le vélo, c'est la vérité nue ». Et le chapitre commence de cette manière. « Comme une initiation venue de l'ancien temps. Une marque. Un sceau transmissible par-delà les générations. » L'air, l'eau, le feu. La force, l'esprit, le courage. Les grands mythes naissent des rites quand ils ne les suscitent pas. Je commençais à comprendre que figurer au palmarès du Tour de France procurait un sentiment confortable d'éternité. Mais doubler la mise, confirmer, prouver à tous que 1983 n'était qu'une préface approximative à une œuvre bien plus vaste, telle était mon ambition. Et je dois bien le dire, ce n'était alors qu'une ambition très raisonnable, comparée au mental qui était alors le mien. Je savais ce que j'avais à faire et je savais exactement où j'allais le faire.
En vous écoutant, vous avez fait plusieurs passages dans des écoles, là à Alès, pour l'étoile de Bessège. Comment les enfants, plus ou moins jeunes, réagissent quand on leur parle d'étapes cyclo-littéraires ? Pour eux, c'est... C'est évident ou compliqué ?
Alors, ça n'a pas été compliqué parce que il faut, là, c'est un travail d'équipe.
Oui, vous avez l'habitude aussi.
Non, quand je dis que c'est un travail d'équipe,
les enseignants les ont préparés.
Voilà, les enseignants les ont bien préparés. Donc, les enseignants ont fait équipe avec nous. Mmh. Et quand on est arrivé, par exemple, ce matin devant une classe de 6e, ben, ils étaient préparés et ils savaient.
Ils avaient des questions, ils avaient lu des textes.
Ils étaient prêts, ils savaient qui. Enfin, pas. Évidemment, ils ont été surpris.
Grosso modo.
Mais
quoi,
ils savaient à peu près pourquoi on était. Enfin, ils savaient pourquoi on était là, qui on était. Et donc, le dialogue s'est instauré avec une grande simplicité. C'était fascinant. Et une grande franchise aussi, avec des questions. Qui, comme ça, on se dit, ouais, ça a l'air naïf, mais pas du tout. C'était des questions d'une grande profondeur qui ont obligé Jean-Emmanuel à dire des choses intenses et profondes, à la fois sur le cyclisme, mais aussi sa relation au cyclisme au travers des mots et au travers, justement, de ses récits à faire. Et ça, les adolescents, ils le perçoivent et ils l'entendent immédiatement. Et comme nous, on n'est pas du genre à jouer les sbrouffes et à pas être ce qu'on est. On est vraiment avec eux
Vous pensez.
Ça marche.
Bien sûr. Mais quand j'écoutais Denis lire, comment vous écrivez Jean-Emmanuel ? C'est-à-dire, vous écoutez la personne, une biographie par exemple de Laurent Fignon, vous enregistrez d'abord des dialogues ou comment vous faites ? Parce qu'on est dans une émission, c'est itinérance,
non, mais pour faire simple.
Des kilomètres. J'ai même pas dit qu'on a appelé cette émission la littérature, pardon, c'est l'inverse, le cyclisme, c'est de la littérature.
Oui.
Et quand vous écrivez, vous êtes du cyclisme, vous êtes un écrivain, vous faites de la littérature.
Moi j'aime pas le mot écrivain entre nous d'ailleurs.
Auteur,
je me sens
que vous
écrivain.
Dites. Écrivant. Alors comment vous êtes un écrivant ? Je détourne.
Comment je suis un écrivant ? Voilà, c'est ça. Bah, pour travailler sur une autobiographie, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, mais là, c'est très simple en vérité. On voit la personne, on se met d'accord sur la structuration d'abord du livre, parce qu'il faut penser en amont.
Le nombre de chapitres.
Le livre, etc., bien évidemment. Et après, c'est un enregistrement sur bande magnétique. Hein, on travaille à l'ancienne sur ça. Forcément, une retranscription. Et après, l'auteur, si je puis dire, prend le pas. Et il y a un vrai travail d'écriture qui prend des mois, bien évidemment.
Et quelle est la différence avec des chroniques dont vous parliez tout à l'heure ?
Rien à voir.
Rien à voir. Non, parce que la chronique, c'est un instantané d'une journée.
Mais oui, la chronique, c'est quand même relaté par les mots avec une manière singulière. En tous les cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais d'autres aussi, bien évidemment. Je ne suis pas le seul. C'est quand même relater un événement sportif sur un instantané. Donc, ce n'est pas du tout le même exercice, bien évidemment.
Et là, je parle de Laurent Fignon, puisque Denis, vous avez lu Laurent Fignon. Il a un droit de regard, vous lui faites lire, il vous fait supprimer certaines choses ou...
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Après l'écriture de chaque chapitre, on avait une séance de travail où il relisait.
Qu'est-ce qu'il gênait ? Qu'est-ce qu'il a gêné ?
Rien.
Ou qu'est-ce qu'il a rien fait supprimer ?
C'est assez terrifiant, vous voulez. Mais non, ça s'est passé assez admirablement bien. Il y a même eu quelques scènes assez cocasses chez lui. À Saint-Mandé, là, dans sa maison, avant qu'il ne contracte sa maladie, hélas, où il relisait certains passages du livre, il me regardait comme ça, avec un café dans la main, me disant « Je t'ai dit ça, moi ? Je t'ai dit ça, moi ?»
Oui, mais c'est la force de l'échange entre deux personnes.
Mais parfois même, pas seulement sur, comment dire, sur la tournure des phrases ou le style, évidemment, parce que... on est entre nous encore une fois, c'est pas grave. Bon, je l'ai vraiment travaillé celui-là.
Ouais.
Mais en puisant aussi son énergie, sa manière d'être.
Puis en l'ayant vu rouler.
En l'ayant vu rouler, bien évidemment. Mais en puisant aussi. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté du genre pour essayer de sortir de ce genre, c'est de rendre par les mots la personnalité de la personne. C'est très difficile, parce qu'évidemment, quand on fait une biographie, une autobiographie d'un homme politique ou d'un sportif, c'est pas du tout la même chose. Là, j'ai voulu rendre le côté combatif de Laurent, sa sensibilité, etc., par des mots et une littérature qui n'est pas forcément évidente dans le milieu du sport, pour dire les choses clairement.
Donc, vous en avez fait une lecture, donc la maison de la littérature à voix haute. On n'a plus le temps maintenant, mais je pense que Bernard Hinault, c'est aussi une de vos idoles. Donc,
c'était ma première idole de gamin, même, pour dire les choses clairement.
On n'a plus le temps non plus de parler de ce tournant du cyclisme dans les années 80-90.
Je peux vous résumer d'une phrase, si vous voulez.
Allez-y,
ça peut le faire.
Et on conclut là-dessus.
Alors, le Tour de France est né sur les cendres de la Commune de Paris en 1903, dans une France déjà nationaliste, qui bascule un peu. C'est le journal L'Auto qui crée cette... épreuve sportive parce qu'ils perdent des ventes et ils veulent créer quelque chose. Et ça fonctionne, bien évidemment. Et le cyclisme, hélas, est en train de s'achever dans le biopouvoir où l'on ne peut plus vraiment parler des performances physiques de peur de mentir.
Merci à tous les deux.
Merci.
Et moi, je finirai, quand je souviens les images avec les cyclistes, avec leurs pneus autour de leur corps, etc. Des vélos qui pesaient 10-15 kilos, et puis maintenant, hyper légers, etc. Vous voyez, je m'y connais un petit peu en cyclisme. Merci à vous. Merci à tous les deux.
Merci.
Partagez vos événements sur notre antenne en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.